les jardinières.
Le temps est gris, humide parfois, et là il fait encore nuit. C'est parfait pour s'installer confortablement, pour écouter les jardinières. Soyez donc les bienvenus. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Ce matin, nous avons le plaisir de passer une heure en compagnie de Stéphane Caravellas. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et Stéphane Caravellas, vous êtes responsable maraîcher à la microferme biologique La Rochette à Charmoy. Bienvenue chez les jardinières.
Et ce matin, nous parlerons de rotation de culture et nous répondrons à vos questions. Merci d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end.
7h, 8h, les jardinières.
Les premières gelées sont arrivées, alors si le matin il faut parfois gratter les vitres de la voiture avant de prendre la route, c'est un temps qui donne quand même envie de rester bien au chaud, mais il y a des intrépides qui aiment l'air frais. Du coup Stéphane, quel est le programme jardinage pour les prochains jours en extérieur ?
C'est vrai que ces derniers temps, la météo s'est bien refroidie. Personnellement, j'ai envie de rester à l'intérieur, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 motivés qui restent dehors. Donc, si ce n'est pas déjà fait, il y a tous les voiles de protection, d'hivernage, de forçage, ou comment vous les appelez, qui peuvent être sortis, qui peuvent être mis sur les cultures qui sont encore en plein champ. Ça peut concerner... je ne sais pas, des carottes, des poireaux, les choux qui restent, peut-être même quelques laitues, des choux chinois, des chicorées, etc. Ça peut être, c'est la bonne période aussi pour nettoyer le jardin avant l'hiver, préparer le potager, couvrir le sol avec de la matière organique pour le protéger du froid, du gel et puis de la forte humidité. C'est aussi le moment de commencer à préparer la saison suivante gentiment, donc à réfléchir un petit peu, faire le point, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, faire ses commandes de graines éventuellement. C'est un peu le moment de redémarrer, de faire une pause et puis de se relancer gentiment vers l'année prochaine. Mais bon, c'est vrai. Merci, qu'on y est vite, mais... vaut mieux prendre un peu d'avance.
Merci Stéphane, vous restez avec nous jusqu'à 8h. Et vous allez aussi répondre aux questions de nos auditeurs. Vous avez toujours 3 possibilités pour nous joindre, soit par téléphone au 0900 70 20 20, et vous parlerez en direct avec nous. Ou alors par SMS, vous tapez jardin suivi d'un espace de votre question et de votre nom et vous nous envoyez ce message au 939. Et puis enfin par formulaire avec la possibilité de joindre une photo, ça se passe sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières.
Après la pause musicale, Stéphane, vous allez nous parler de rotation de culture dans nos potagers.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Stéphane Caravellas, maraîcher bio dans le Jura, nous allons parler de rotation de culture. C'est un mot difficile, c'est plus facile à faire dans le jardin, j'espère. La rotation de culture est parfois un casse-tête pour les jardinières et jardiniers amateurs. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, Stéphane, la rotation de culture, qu'est-ce que c'est ?
Alors, grosso modo, c'est un outil qui nous permet en fait de, chaque année, donc ça concerne surtout les plantes annuelles, vu que dans nos potagers, nos légumes ou bien... en plein champ, grande culture, c'est des plantes annuelles. C'est un outil qui nous permet de chaque année avoir une autre culture sur la même parcelle. Donc c'est un peu comme une ronde des cultures, on les fait tourner de parcelle en parcelle, d'année en année, et puis la même culture reviendra plusieurs années plus tard au même endroit. Donc c'est un peu faire une roue des cultures, grosso modo.
Mais alors, pour qui au juste la rotation de culture, est-ce qu'elle est utile ?
Alors, elle peut être utile pour des personnes qui pratiquent principalement de la monoculture, soit à petite, soit à grande échelle. Comme je disais juste avant, vu que les cultures sont surtout des annuelles, elles permettent de faciliter un petit peu le travail et la compréhension du travail. Et la compréhension des itinéraires de culture sur plusieurs années. Ça donne une organisation au travail. Donc ça nous permet, par exemple, généralement, les cultures annuelles se terminent, que ce soit des céréales ou bien en grande culture, en monoculture, ou des pommes de terre, comme ça. Leur cycle se termine en été ou début d'automne. Et Ce qui se fait souvent, c'est qu'on replante ou on ressème la culture pour l'année précédente, tout de suite après. Et puis ça fait un enchaînement en fait, d'année en année comme ça. On peut aussi éventuellement, après la première récolte, semer une culture intercalaire qui va couvrir le sol pendant l'hiver. Voilà, donc ça, je dirais que la rotation des cultures est très utile, ou disons plus ou moins utile pour ceux qui pratiquent de la monoculture à grande échelle, quoi.
Et est-ce que dans un potager, on doit faire pareil ?
Alors, pas du tout. Vous n'avez pas besoin de faire pareil. Par contre, elle peut très bien se pratiquer à petite échelle aussi. Hein. Suffit simplement de considérer les parcelles comme étant une plate-bande, par exemple. Si votre potager est petit, que vous avez 5 plate-bandes, eh ben, vous vous dites, voilà, pour faciliter la compréhension, la plate-bande numéro 1, je mets tel légume, l'année suivante, je mettrai une autre, etc. etc. Et puis, au bout de 5 ans, bah, la première culture que vous aurez mis reviendra au même endroit, quoi. On peut faire ça aussi dans un potager plutôt mixte. On peut faire ça, par exemple, pour des cultures longues. En général, c'est ce que ça concerne, ces cultures-là, genre, par exemple, les pommes de terre, les courges ou les tomates. Voilà, des légumes qui ont des cycles longs. On peut les déplacer d'année en année. Voilà. Après, c'est à chaque jardinier d'organiser son potager comme il le souhaite. Mais ce n'est pas du tout une nécessité, quoi. Je trouve qu'en jardinage, il n'y a pas de dogme. Donc, il n'y a que des techniques adaptées à chaque contexte, quoi.
7h, 8h, les jardinières.
On parle de rotation de culture ce matin en compagnie de Stéphane Caravellas, responsable maraîcher dans une micro-ferme biologique à Charmoy dans le Jura. Alors Stéphane, vous nous avez expliqué hein, que c'est une espèce de roue des cultures, la rotation de culture. Ça se pratique plus particulièrement pour les professionnels de la monoculture. Alors si on ne le fait pas dans notre potager, on entend parfois dire que si on ne pratique pas cette rotation de culture, le sol va peut-être s'appauvrir et avoir des carences. Alors, quel est votre avis là-dessus ? Est-ce que c'est un faux ou un tox ?
Alors, pour ma part, l'appauvrissement du sol, quelle que soit la technique de culture, si on pratique la rotation, bah, c'est pas ou un manque de rotation, ça va pas être le manque de rotation à lui seul qui va être la cause de l'appauvrissement du sol, à mon avis. Mais c'est plutôt des mauvaises techniques qui peuvent l'accompagner. Par exemple, un travail du sol trop régulier et sans apport de matière organique. Voilà, je pense qu'on aurait beau pratiquer la plus belle des rotations. Voilà, si le sol est souvent labouré et puis qu'on n'ajoute pas de nourriture, donc de matière organique, alors les seuls résidus de culture, donc pas après les moissons par exemple, dans nos grandes cultures, les seuls résidus de culture ne suffiront pas en fait à compenser ce qui a été entre guillemets utilisé, quoi. C'est vrai que dans nos cultures en général, on exporte énormément de matière organique et on en ramène très peu au champ, quoi. Donc on pense à la paille par contre, voilà, si au contraire le sol, il est comment ? On pratique des apports de matière organique régulière dans un but de vitaliser le sol, qu'on pratique la rotation ou pas. Je pense que c'est déjà un très bon pas, quoi.
Mais justement, pour nourrir ce sol, vous l'avez dit, il a besoin de matière organique. Comment et sous quelle forme on peut lui en donner ?
Alors, il y a toutes sortes de formes qu'on peut apporter. Donc, c'est de la matière organique, elle peut être entre guillemets morte. Par exemple de la paille, du bois déchiqueté, des feuilles, du fumier, du crottin. Donc c'est la matière brute qu'on apporte directement. Ou bien ça peut être de la matière transformée déjà, donc du compost qui a déjà en fait subi une transformation, du lombricompost. Voilà. Ça peut être aussi sous une forme de matière vivante, comme on dit un peu, donc d'engrais vert par exemple. Faut savoir que chaque plante, quand elle se développe, elle entretient la vie microbienne autour de ses racines. Donc, elle apporte aussi quelque chose au sol quand elle se développe. Donc, des engrais verts, des plantes, quelles qu'elles soient, si le sol est couvert par une matière vivante, donc un couvert végétal, eh ben, y a une richesse et une vie qui est entretenue par ça, quoi. Voilà.
Les jardinières.
Les jardinières, c'est votre rendez-vous au vert du samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Notre spécialiste ce matin, c'est Stéphane Caravellas, responsable maraîcher dans la microferme biologique La Rochette à Charmoye. Et ce matin, Stéphane, vous nous expliquez en quoi consiste la rotation de culture. Et puis bien sûr, vous allez répondre aux questions de nos auditeurs.
Et on attend vos questions par téléphone. Vous composez le 0900 70 20 20 et parlez en direct avec Stéphane. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS. Vous tapez jardin, un espace suivi de votre question au 939. Et puis un formulaire est aussi à votre disposition avec la possibilité de joindre une photo à votre question. Ça se passe sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières.
Stéphane, vous nous avez expliqué que le sol doit être en bonne santé grâce à l'apport de matière organique. Alors, comment est-ce qu'on tient compte des besoins nutritifs des différents légumes ? Est-ce que tous ont le même besoin, ce même besoin nutritif ?
Alors, je dirais que dans les faits, tous les légumes ont besoin de vie. Voilà. Ils ont tous besoin d'un sol vivant. L'important, c'est pas forcément d'avoir un sol riche en éléments, mais plutôt vivant et dynamique. Parce que plus il est vivant, plus il est dynamique, plus il sera à même de proposer, de mettre à disposition des plantes tous les éléments qu'elles ont besoin. Quoi. Quand on pense qu'il y a 2 à 5 % de la composition de la plante qui provient du sol sous forme de minéraux ou d'oligo-éléments, puis que tout le reste, les 95 à 98 %, c'est de l'air et de l'eau, bah voilà, on peut... Finalement, les éléments du sol ont une très grande importance, mais s'ils ne peuvent pas être mis à disposition par un sol vivant, ben voilà, la plante va moins bien. Donc le but, c'est vraiment pas d'enrichir forcément le sol, parce que c'est un exemple tout bête, mais on fait pipi quelque part, ben voilà, le sol est enrichi. Mais ce pipi, s'il n'est pas géré par toute une vie microbienne dynamique, il ne pourra pas être mis à disposition, tous les éléments du pipi ne pourront pas être mis à disposition des plantes. Donc l'idée, c'est de dynamiser le sol par des pratiques et des apports réguliers de matière organique. Quoi. Pas forcément excessif, mais plutôt régulier. Voilà. Et puis, voilà, plus le sol est vivant, plus il sera à même de gérer tous les excès, tous les déséquilibres que certaines pratiques pourront apporter. Quoi.
Et puis si on ne pratique pas cette rotation de culture dans son potager, est-ce que les mêmes parasites vont revenir chaque année ?
Ben, je dirais que la rotation n'est pas à elle seule la solution à tous les problèmes de parasites et de maladies. Je dirais qu'à chaque sol, c'est parasite. C'est un peu comme le corps humain. Plus on est en bonne santé, plus on est à même de combattre et de gérer tous les pathogènes qui nous entourent. Parce qu'en fait, ils sont partout. Et dans le sol, dans la nature, c'est pareil. Tous les pathogènes existants sont partout. Mais pourquoi est-ce qu'ils se manifestent à certains endroits et pas à d'autres ? C'est parce qu'il y a un déséquilibre, à mon avis, au niveau du sol. Je dirais que tout part du sol. Donc voilà, notre but, nous, à nous, jardiniers, c'est, comme j'ai dit un petit peu avant, de vraiment proposer une nourriture saine et diversifiée à ce sol, sous forme de matière organique. Pour que ce sol-là élève des plantes en bonne santé. Parce qu'une plante en déséquilibre, même si on ne comprend pas tout, il n'y a pas besoin de tout comprendre, mais si une plante est en déséquilibre, ben, elle va attirer forcément des insectes ou des maladies, etc. Donc, même avec une bonne rotation, s'il y a quelque chose qui est déséquilibré, ça va rien changer, quoi, à mon avis.
Donc si on a une tomate qui a eu du mildiou cet été, ça ne sert à rien de planter une tomate 5 mètres plus loin si on ne s'attaque pas au problème, j'ai envie de dire, à la racine.
Ouais, c'est ça, mais je dirais que c'est un peu ça, quoi, parce que la rotation des cultures, comme j'ai dit un peu avant au début de l'émission, c'est surtout un outil en fait, qui nous permet de simplifier nos systèmes de culture pour les rendre plus compréhensibles, plus gérables, pour des agriculteurs qui pratiquent de la grande culture sur des très grandes surfaces. Mais au niveau des parasites et des maladies, si le problème n'est pas entre guillemets géré à la base, c'est-à-dire au niveau du sol, en faisant une rotation sans s'attaquer à la base, bah, en fait, on va juste simplement déplacer le problème ailleurs. Donc effectivement, en déplaçant nos tomates, si rien n'est fait, les tomates vont juste simplement déplacer en transporter avec elles aussi leur mildiou ou leur maladie ou leur pathogène, quoi. Et voilà, ça va, elles vont juste les parasites vont juste tourner en rond tranquillement.
Et Stéphane, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un potager en pleine santé et des cultures de légumes généreuses et en santé?
Alors, dans les grandes lignes, je dirais que c'est de cultiver le sol avant tout. Là, on parle surtout du potager, parce que c'est vrai que si on a des hectares et des hectares, c'est pas forcément facile de trouver autant de matière organique pour couvrir tous ces hectares. Même si on parle à petite échelle dans nos potagers, voilà, l'idée, ce serait de nourrir le sol avec des apports réguliers de matière organique tout au long de l'année. La vie, elle ne s'arrête pas. Même en hiver, même quand il fait froid, même quand il fait chaud, sec, etc. La vie, elle est toujours là. Et c'est notre but, justement. C'est notre but de garder le sol toujours vivant. Donc, dans les grandes lignes, c'est ça. Cultiver des légumes aussi adaptés à la saison et au contexte et à nos besoins, tout simplement. Et puis, ce serait aussi... c'est vrai qu'on a souvent cette idée de laisser reposer la terre, mais il y a des récentes études qui ont montré que, en fait, chaque plante, comme j'ai dit un peu avant aussi, chaque plante, elle entretient des relations avec le microbiote du sol. Et... Donc, partout où il y a une plante, il y a une vie qui est dynamique à son pied, à ses racines. Et donc, elle entretient, en fait, finalement, la vie du sol en étant simplement là et en entretenant des relations, des échanges, d'éléments, etc. Donc, mettre au repos un sol n'est pas forcément... je dirais que ce sera à éviter, quoi. Si on arrive à le couvrir tout le temps d'une couverture végétale, c'est parfait, quoi.
C'est tout bonus. Stéphane, vous êtes maraîcher, vous cultivez donc une grande quantité de légumes. Est-ce que chez vous, vous pratiquez la rotation de culture?
Alors, la rotation de culture, comme je l'explique jusqu'à maintenant, non, on ne la pratique pas. Nous, ce qu'on pratique, c'est plutôt En fait, vu qu'on cultive énormément de diversité et de quantité, chaque année, sur la même plate-bande, il y a plusieurs générations et variétés de légumes qui s'enchaînent, en fait. Du coup, on n'a pas besoin de faire une rotation. Nous, ce qu'on pratique, c'est plutôt une association dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'au pied de certains légumes élevés, on va mettre des légumes plus petits. Au pied de... Voilà, avec des légumes qui ont un enracinement très profond, on va mettre des légumes avec un enracinement peu profond, par exemple. Voilà, ça c'est une association dans l'espace. Dans le temps, c'est avec des légumes à cycle long, on va plutôt semer ou planter des légumes à cycle court. Comme ça, sur le même mètre carré, on va pouvoir faire plusieurs récoltes en même temps, quoi. Voilà. Après, il y a aussi un autre aspect, c'est que, de mon expérience, pendant 4 ans, j'avais planté des tomates au même endroit, dans la même serre, et elles se comportaient tout à fait bien. Pourquoi ? Parce que, en fait, chaque année, et plusieurs fois par année, j'apportais de la matière organique. Donc, et puis, voilà, elles n'ont jamais tombé malades. Donc, c'est vrai que, comment dire, la rotation des cultures peut être un outil très intéressant pour simplifier un système, mais pas forcément une solution, à mon avis, pour gérer des pathogènes, parce que le problème est, en fait, ailleurs, quoi.
7h, 8h, les jardinières.
7h47 chez les jardinières, on va répondre aux questions de nos auditeurs. Brian, on peut peut-être rapidement rappeler comment nous joindre.
Et oui, vous avez toujours trois possibilités. La première, c'est par téléphone. Vous nous appelez directement au 0900 170 20 20 et vous aurez la chance de parler en direct avec Stéphane. Vous avez aussi la possibilité du formulaire disponible sur notre site internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières. Et cette fois, vous aurez l'occasion de joindre une photo à votre question. Et puis, troisième possibilité, c'est avec votre téléphone par SMS. Vous nous envoyez un message au 939. Et vous devez impérativement le commencer par jardin. Vous écrivez votre question et vous terminez par votre nom. Vous l'envoyez, je vous le rappelle, au 939.
Et on a reçu via notre formulaire une question de Denis de Courtemèche. Il a même joint une photo à sa question. Et il nous parle de ses choux de Bruxelles qui ne grandissent pas. Alors il se demande s'il doit encore attendre ou ils ne vont rien donner. Merci. Alors Stéphane, on va peut-être commencer par décrire cette fameuse, comment on appelle ça, une plante à choux Bruxelles? Un chou bruxellier, un bruxellier.
Ce qui est intéressant, c'est que faut savoir que les choux de Bruxelles, les brocolis, les choux pommes, les choux fleurs, etc., ils viennent tous de la même plante en fait à la base. Donc la même une plante sauvage a donné toutes ces déclinaisons là avec des formes et des trucs différents. Ça qui est fou. Donc le chou de Bruxelles, du coup, c'est un chou qui a un cycle assez long quand même et qui se développe en hauteur. Et à la base de chaque feuille, il y a un bourgeon qui se développe et c'est ça qu'on mange. C'est le chou de Bruxelles, le petit bourgeon là, qui si on le laisse grandir va donner en fait des tiges, des hampes florales à la fin de son cycle. Donc là, on voit une photo justement avec des choux de Bruxelles assez élevés, bien fournis en feuilles, avec des tout petits bourgeons. Alors, bah, ce que je peux dire pour Denis, en tout cas, c'est que je ne sais pas quand est-ce que tu les as plantés. Peut-être qu'ils ont été plantés un peu trop tard et qu'ils n'ont pas eu le temps de se développer avant que les froids arrivent, parce que maintenant, il fait quand même relativement frais. Donc ça bloque quand même la croissance, même si c'est des choux, ils résistent très bien au gelé, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils poussent, quoi. Y a aussi la réduction de la luminosité, hein. On arrive vers le point le plus obscur de l'année, donc c'est ça aussi qui réduit vraiment drastiquement la pousse des plantes. Donc peut-être que tu les as plantés trop tard, peut-être que, comme ça, avec une photo, c'est difficile à dire, mais vu leur tête, c'est possible qu'ils aient eu un blocage de croissance aussi, qu'au niveau des racines, il y a quelque chose qui n'est pas bien laid, ou bien il y a eu un manque d'arrosage à un moment donné. Voilà, je ne saurais trop que dire. Si ça ne te dérange pas, laisse-les, et puis tu verras bien. Mais effectivement, si la photo, elle est actuellement, ouais, elle date d'aujourd'hui, je crois, ou de hier, à mon avis, tu n'en auras pas, voilà, sauf si l'hiver est très clément, mais tu n'en auras pas avant l'année prochaine, si tu en as, quoi, ça c'est sûr.
Donc là, s'il les laisse comme ça, soit il a une chance, ça pousse, soit il faut qu'il retire les plantes et qu'il en replante.
Voilà, bah, l'année prochaine, voilà.
Ouais, bon, ben, Denis, pour la saison suivante. Peut-être un peu frustré de ne pas avoir eu ces choux Bruxelles. Merci en tout cas pour l'envoi de cette question. Et puis je vous conseille, si vous n'avez jamais vu comment poussent des choux Bruxelles, allez sur internet, vous tapez plante choux Bruxelles, vous verrez, c'est tellement joli ces petits choux qui poussent le long de la tige de la plante. Voilà, ça c'était mon petit côté un petit peu. Oh, c'est trop chaud.
7h, 8h, les jardinières.
Il est 7h53 et on va quand même pas se quitter sans répondre à la question qui nous attend par téléphone, Brian.
Et oui, c'est Marie-Josée de Porrentruy qui nous appelle. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez une question pour notre spécialiste bonjour. Stéphane.
Oui, bonjour Stéphane.
Bonjour.
J'aimerais savoir, la rose de Noël.
Oui.
Une fois qu'elle est gâtée, ça tient juste quelques temps, puis après la plante elle est fichue.
Non, alors la rose de Noël, donc l'hélébore noire, sauf erreur, c'est une plante vivace, hein, donc vous pouvez la planter si vous avez un potager ou un pot ou un balcon ou quoi. Vous pouvez sans autre la planter et puis elle va, ouais, alors elle va faire des fleurs une partie de l'année, c'est sûr. Et une autre partie de l'année, elle sera que en feuilles. Mais non, c'est une plante vivace, donc en principe, si elle est bien entretenue, elle va durer un certain nombre d'années, ouais.
Ah, mais on peut la voir dans le pot pendant les fêtes.
Oui, alors je ne sais pas si vous venez de l'acheter, par exemple, en jardinerie, je vous conseille quand même de la rempoter avec un terreau un peu plus naturel et riche, voilà, parce que souvent ces plantes achetées en jardinerie, elles sont pas forcément faites pour durer, donc je vous conseille de la rempoter dans un pot à vous avec un terreau que vous aurez acheté en jardinerie ou que vous aurez fait vous-même, et puis comme ça, elle va durer un peu plus longtemps, ouais.
Oui, et puis maintenant le nom ne me vient plus, mais la plante rouge, comment c'est plus le nom?
C'est la poinsettia, moi, j'imagine, que vous
pensez. L'étoile de Noël.
Voilà, l'étoile de Noël, il y en a, on les confond souvent, il y a l'hélébore, oui, et la poinsettia. Alors la poinsettia, oui, celle qui est rouge, qu'on trouve avec des petites paillettes, oui. Celle-ci.
Alors celle-là, elle dure aussi beaucoup plus longtemps que les fèves.
Si on s'en occupe bien, je pense, Stéphane, non?
J'imagine, ouais, après.
Elle tient bien.
Ouais, alors je la connais pas. Moins bien quand même celle-là, mais si c'est une plante vivace, J'imagine que oui. Après, je ne saurais trop dire. Peut-être demander à un paysagiste, peut-être il vous répondra un peu mieux.
Bah Marie-Jo, moi je vous propose que vous nous envoyez ou vous nous rappelez la semaine prochaine. On sera en compagnie de Cathy Racine qui pourra peut-être vous en parler un peu plus. On en avait fait une émission d'ailleurs des étoiles de Noël et des éléboires chez les jardinières. Vous pourrez retrouver ça sur notre site en podcast. Ça va jouer pour
oui,
vous, Marie-Jo.
Oui.
Merci
oui.
beaucoup et bonne journée. Merci pour votre question. Bon
bonne
week-end.
Fin de journée à vous.
Merci, au revoir.
Bonne journée, au revoir. Et merci à vous, Stéphane. On rappelle que vous êtes responsable maraîcher dans la microferme biologique La Rochette à Charmoille. Bon week-end et puis à bientôt chez les jardinières.
Merci, pareillement, bon week-end, au revoir.
Merci beaucoup Stéphane et aussi pour toutes vos explications sur les rotations de culture. Les jardinières reviennent donc samedi prochain en compagnie de Cathy Racine, jardinière et guide de randonnée nature à Mervelier. Et puis bien sûr, vos questions, vous les posez quand vous voulez sur le formulaire à disposition sur nos sites ou alors par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question. Vous nous envoyez tout ça au 939. Bon week-end Brian.
Bon week-end Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières.